frères et sœurs, 35 ans, 35 ans. Pour certains d'entre vous qui sont jeunes, c'est presque incompréhensible, les plus jeunes, que 35 ans, c'est long. Ils pensent probablement, oh là là, c'est vieux, puis ils pensent que Monsieur Huck pourrait avoir cet âge. Et je dis, bien, continuez à penser de cette façon. Mais cela représente une période extrêmement importante pour quelqu'un. Cependant, un certain nombre d'années, de mois, de semaines et de jours sont encore plus importants pour vous et moi. Je vous expliquerai l'importance de ces chiffres un peu plus tard. Il y a quelques semaines, nous avons célébré la fête des tabernacles. Ce fut une période d'apprentissage, de camaraderie et de joie, alors que nous obéissions au commandement de Dieu. Pour moi, c'était vraiment la meilleure fête qui soit. J'ai entendu cela maintes et maintes fois, et ce n'est pas seulement quelque chose que nous lançons. Nous nous efforçons d'en faire le meilleur chaque année, et cela n'a certainement pas fait exception cette année. Pour la plupart d'entre nous, ce fut une merveilleuse expérience d'unité, d'apprentissage et de croissance. Et ce que nous avons fait, frères et sœurs, était bon et juste aux yeux de Dieu. Ce que nous avons fait, en nous rassemblant comme il l'avait ordonné, en le cherchant, en obéissant à ses lois pour célébrer la fête, c'était juste et bon aux yeux de Dieu. C'était étonnant de voir comment Dieu, chaque année, année après année, veille sur nous alors que nous voyageons et nous nous rendons à l'endroit où Dieu a placé son nom. Et nous entendons parfois des histoires miraculeuses à ce sujet. Et qui ne serait pas d'accord pour dire que chaque jour de notre vie devrait être marqué par ces caractéristiques d'obéissance à Dieu, de recherche, d'apprentissage quotidien. Personne ne s'y opposerait. Et ce ne sont là que quelques ingrédients qui contribuent à notre succès en tant que peuple de Dieu, mais ce n'est pas l'objet de mon message. Mais ces actions, les choses que je viens de mentionner, ce que nous venons de faire, l'observation de la fête de Dieu, met en évidence une caractéristique que nous avons tous, et ce n'est pas la foi. Certes, il faut de la foi pour faire les choses que je viens de mentionner, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la vie d'un certain roi. Son règne pendant de nombreuses années a plu à Dieu. Cette caractéristique, dont nous avons tous absolument besoin, nous ne pourrions pas vivre sans elle. Elle s'est manifestée dès les premières années de son règne. Il a montré cette caractéristique que nous avons tous. Cela lui a permis de remporter des victoires remarquables, et nous allons en examiner quelques-unes. Il en a résulté de nombreuses bénédictions dans sa vie, et nous allons voir ce qui y a contribué. Mais son histoire est aussi une mise en garde. Il y a deux côtés à la médaille. En examinant sa vie, nous verrons également trois erreurs majeures qu'il a commises en très peu de temps. Cela l'a fait passer d'une vie de bénédiction, de victoire et de tout ce que nous pourrions souhaiter, même dans notre vie personnelle, une vie de triomphe, à un échec presque immédiat. Il est à espérer que les leçons tirées de ces faux pas nous aideront à éviter un destin similaire. Examinons donc son histoire aujourd'hui et voyons ce qui pourrait amener chacun d'entre nous à passer d'une vie de succès, de joie et de bénédiction à une vie potentiellement vouée à l'échec et à la mort. Commençons par le chapitre 9 de Seconde Chronique. L'homme que nous allons lire était l'arrière-petit-fils du roi Salomon et l'arrière-arrière-petit-fils du roi David. Il faisait partie d'un grand héritage, d'une grande lignée. Il avait un avenir prometteur en réserve, des prophéties étonnantes concernant sa lignée. Dans le chapitre 9 des Deuxièmes Chroniques, nous verrons de qui il s'agit. Pour le contexte et l'arrière-plan, nous irons au verset 30. Deuxième Chronique 9, verset 30, Salomon régna à Jérusalem, il s'agit de son arrière-grand-père. Il régna 40 ans sur tout Israël. Salomon se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Le roi Salomon, qui a régné 40 ans, est le père de Roboam. Il est facile de lire ici et de suivre la lignée. Bien sûr, vous savez que le roi David était le père de Salomon. Peu après la mort de Salomon, Roboam a été confronté à un choix difficile. Certains d'entre vous connaissent l'histoire. Il pouvait alléger le lourd fardeau que son père avait fait peser sur l'Israël pendant 40 ans, et il a été confronté à ce choix. Allons au chapitre 10 et au verset 2. Parce que tout ce que nous exposons ici, les bribes de l'histoire de cet individu, l'ascendance de ce certain roi, c'est quelque chose qu'il apprenait. Quelque chose qu'il aurait appris, évidemment. Chapitre 10, verset 2. Lorsque Jéroboam, fils de Nebat, qui était en Égypte, où il s'était enfui devant le roi Salomon, l'un de ses fonctionnaires, un Éphraïmite, il entendit dire que Roboam s'était rendu à Sichem pour se faire proclamer roi partout Israël, il se rendit compte qu'il n'y avait pas de roi. Jéroboam revint d'Égypte. On l'envoya appeler. Jéroboam et tout Israël, toute la nation d'Israël, vinrent parler à Roboam, et lui dirent, « Ton père a rendu notre joug pénible. Maintenant, allège-toi un peu, juste un peu, fais quelques ajustements, vas-y un peu plus doucement. Nous ne vous demandons pas de vous retirer complètement de ce que faisait votre père, mais si vous vous retiriez juste un peu. Cette pénible servitude de votre père, et le joug pesant qu'il a fait peser sur nous, nous vous les servirons. » Telle était leur promesse. C'est le marché que toute la nation était prête à conclure avec Roboam. Et ce n'est pas une demande déraisonnable de la part de toute la nation unifiée d'Israël. Roboam a donc sagement demandé 3 jours pour réfléchir à sa requête. Il allait donc demander conseil et il a demandé conseil aux hommes qui étaient les sages auxquels Salomon avait eu recours à de nombreuses reprises. Et voici ce que les sages lui ont dit, « Il faut alléger le fardeau et faire en sorte que le peuple devienne son serviteur et qu'il le serve pour toujours. » Mais il a suivi les conseils des jeunes, qui lui ont dit d'alourdir encore leur fardeau. Et cette décision a eu pour conséquence de déchirer le royaume jusqu'à aujourd'hui. Regardez le verset 19. Regardez Israël aujourd'hui. Ils ne savent même pas qui ils sont à cause de cette action. Israël s'est révolté contre la maison de David, Juda, jusqu'à ce jour. On pourrait même dire jusqu'à aujourd'hui. Puis, au chapitre 11 et au verset 4, Dieu révèle, par l'intermédiaire du prophète Chemin, qu'il a fait en sorte que tout cela se produise dans son but. Et après que Jéroboam et ses fils aient chassé les fils de Lévi du royaume du Nord, y compris la prêtrise lévitique, il ordonne des prêtres d'autres tribus, j'imagine, pour établir des hauts lieux pour les démons et les idoles. Chapitre 11, verset 13. Nous nous dirigeons vers cet individu. Les prêtres, les Lévites et tout Israël se rendirent à Roboam de toutes leurs côtes. En d'autres termes, ils sont venus à Roboam. En effet, les Lévites quittèrent leur banlieue et leurs biens et vinrent en Juda et à Jérusalem, car Jéroboam les avait chassés de l'exercice de la fonction sacerdotale auprès de l'Éternel. Il a établi des prêtres pour les hauts lieux, pour les démons et pour les veaux qu'il a faits. Au verset 22, le roi Roboam revient en Juda et commence à préparer son fils Abija à devenir roi en le nommant chef. Et dans le tout dernier verset du chapitre 12, il est dit qu'Abija commence à régner après la mort de son père. Lisons-le, au verset 16. Roboam se coucha avec ses pères et fut enterré dans la ville de David. Abija, son fils, régna à sa place. À ce moment-là, Jéroboam, comme vous pouvez le lire, régnait sur le royaume du nord d'Israël depuis environ 18 ans. Nous arrivons au chapitre 13. Tournons-nous vers ce point. Au verset 1, la 18e année du roi Jéroboam, Abija commença à régner sur Juda. Et au verset 2, Abija et Jéroboam entrèrent en guerre l'un contre l'autre. C'est la première fois que Juda et tout Israël entrent en guerre l'un contre l'autre. Abija, dont nous allons parcourir le récit, a levé 400 000 hommes vaillants contre les 800 000 hommes d'élite de Jéroboam, soit le double des forces, Israël contre Juda, une seule tribu. Abija se lève avec audace et commence à crier au verset 4. Il a perdu près de la moitié de la force militaire. Et il déclare tous les mauvais actes de leur chef. Il leur met le doigt dans l'œil. J'ai la moitié des forces et maintenant je vais devenir un peu trop audacieux, peut-être si vous voulez. Il leur raconte comment ils se sont rebellés contre le roi David et ont abandonné Dieu en chassant les prêtres, en les remplaçant par des adorateurs de démons et d'idoles. Mais Abija, qui criait et hurlait contre cette armée massive, ne s'est pas rendu compte qu'il préparait une embuscade à l'arrière. Au verset 13, on lit, « Mais Jéroboam fit sortir une embuscade par derrière. Ils étaient donc devant Juda et l'embuscade était derrière eux. Et quand Juda regarda en arrière, voici, la bataille était devant et derrière. Il est dit, ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent de la trompette. Les hommes de Juda poussèrent des cris. Et comme les hommes de Juda poussaient des cris, Dieu frappa Jéroboam et tout Israël devant Abija et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre leurs mains. Verset 17. Abija et son peuple les tuèrent avec une grande défaite. Ainsi, 500 000 des 800 000 hommes élus d'Israël ont été tués. Voilà, mes frères, pourquoi Abija et Juda ont été victorieux alors qu'Israël était presque deux fois plus nombreux qu'eux. Et ils avaient aussi l'avantage de la surprise en leur faveur. Verset 18. Les enfants d'Israël furent humiliés, ce qui signifie en hébreu, vaincus, mis à genoux, humiliés, soumis à ce moment-là. Les fils de Juda l'emportèrent, parce qu'ils s'appuyèrent sur le Seigneur, le Dieu de leur père. Quel contraste! D'une part, un homme et un peuple qui étaient dominés et tactiquement inférieurs ont été victorieux. D'autre part, un homme et un peuple beaucoup plus nombreux et tactiquement supérieurs ont été vaincus. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe lorsque des personnes, petites ou grandes, s'en remettent à Dieu. Certains des plus grands exemples de ce que je viens de décrire dans ma vie sont venus de vous tous. Pensez à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. J'ai parlé à des gens qui ont l'impression que tout va mal dans leur vie, qu'ils sont frappés par une truelle, parfois par plusieurs truelles en même temps. Vous avez entendu le vieil adage, quand il pleut à verse. Et parfois, dans votre vie, dans la mienne, vous avez l'impression qu'il pleut à verse, et pas seulement à torrent. Pensez aux ouragans récents. Les frères de Floride ont subi les ouragans Helene et Milton, l'un après l'autre. Non seulement ils ont dû surmonter le premier, mais ils ont dû ensuite faire face et regarder à la télévision et sur les radars l'arrivée du suivant, en se demandant ce qui allait se passer pour eux. Nous prions pour eux, nous espérions pour eux. Pensez au coût de l'alimentation et de l'énergie, au fait que nous n'obtenons pas d'augmentation de nos salaires et de nos feuilles de paye, mais des augmentations de l'alimentation, une autre truelle qui nous est jetée à la figure. La perte d'un emploi en pleine période d'inflation complique les problèmes familiaux. Je pourrais continuer à énumérer le nombre de coups de truelle que j'ai vu subir par des frères. J'en ai subi moi-même. L'expression s'appuyer sur les frères est probablement l'une des plus importantes de la Bible. C'est un charan. Phonétiquement, il s'écrit SHAW-AN, charan. Il signifie se soutenir. S'aider soi-même en s'appuyant sur quelque chose ou quelqu'un. Permettez-moi de le répéter. Se soutenir ou s'aider en s'appuyant sur quelque chose ou quelqu'un d'autre. Ce que cela nous dit, c'est qu'ils ont gagné parce qu'ils se sont soutenus eux-mêmes. Ils se sont aidés eux-mêmes. Et comment se sont-ils aidés? En s'appuyant, en se reposant et en se fiant à Dieu. Je sais que vous pouvez tous vous identifier à certains des exemples que j'ai donnés, et vous pouvez même en trouver d'autres. Mais imaginez que vous affrontez une armée de 800 000 hommes puissants. C'est la mort qui vous attend, n'est-ce pas? Pas dans ce cas. Je pourrais consacrer le reste du message à ce seul point concernant la confiance en Dieu. Et je vais y consacrer beaucoup de temps. Mais nous devons aussi regarder le fils d'Abija, Asa. Cela nous permettra de voir quels sont les faux pas qui font que quelqu'un passe de la victoire, de la bénédiction, de la victoire à travers les épreuves, de la confiance en Dieu à l'échec total. Passons au chapitre 14. Qu'est-ce qui peut nous faire passer, frères, de la victoire au milieu des épreuves et de l'épreuve après l'épreuve après l'épreuve, parce que vous êtes tous encore assis ici, à ce qui pourrait être potentiellement un échec? Eh bien, nous devons à nouveau regarder la vie d'Asa, le fils d'Abija. Le premier verset du chapitre 14. Écoutez tous attentivement. Abija se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut tranquille pendant 10 ans. Pourquoi? Asa, le fils d'Abija, était à nouveau le petit-fils du roi Roboam. L'arrière-petit-fils du roi Salomon et l'arrière-arrière-petit-fils du roi David. Cet homme savait gouverner. Il savait ce qu'il fallait faire pour diriger efficacement une nation. Il faisait partie de la lignée royale de Juda. Il a d'abord fait ce qui était juste aux yeux de l'Éternel. Si vous le voyez au verset 2, il y a quelque chose à quoi j'ai fait allusion au début de mon message. Il enleva les autels des dieux étrangers, brisa les colonnes, abattit les images en bois, obéit à la loi de Dieu et bâtit des villes. On l'a certainement trouvé en train de faire les choses qui plaisent à Dieu. Et il est dit dans la toute dernière phrase du verset 7, pour résumer le tout, ils bâtirent et prospérèrent. Frères et sœurs, c'est ce que nous pouvons expérimenter lorsque nous nous appuyons sur Dieu. La prospérité. Au verset 8, Asa avait une armée d'hommes qui portaient des traits, c'est-à-dire des crochets et des lances. De Juda, 300 000 hommes. J'imagine qu'ils ont l'expérience de la guerre précédente. Et de Benjamin, qui portait des boucliers et des arcs, 280 000 hommes. Tous ces 580 000. Il avait à sa charge une augmentation de 180 000 hommes par rapport à l'année précédente. C'étaient des hommes puissants et valeureux. Mais voilà qu'arrive Zéra, l'Éthiopien. Juste au moment où les choses allaient bien, 10 ans de paix, j'ai 580 000 hommes, j'ai augmenté le nombre d'hommes vaillants, dont beaucoup avaient l'expérience de la guerre précédente. Et que se passe-t-il? Avec lui, l'Éthiopien, c'est une armée d'1 million d'hommes et de 300 000 chars. Pouvez-vous imaginer cette scène? J'ai regardé quelques images de l'époque où Martin Luther King a prononcé son discours « I have a dream », je crois qu'il y en avait 250 000. C'était comme une mercredi de gens sur le Washington Mall. Du Lincoln Memorial au Washington Monument en passant par le Capitole. Et puis j'ai vu une photo de la marche du million d'hommes en 1995, je crois. Combien d'entre vous s'en souviennent? C'était une immense mer de gens. Voilà à quoi ressemble un million de personnes qui vous foncent dessus. Et c'était des hommes puissants. Pouvez-vous imaginer le tonnerre de ces chars qui vous foncent dessus? Au verset 10, que fit Asa et comment cela se passa-t-il pour lui et pour le peuple de Dieu? Asa sortit à sa rencontre, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Zephatha, à Maresa. Asa cria à l'Éternel, son Dieu, et dit, « Seigneur, tu n'as rien à faire, ni avec la multitude, ni avec ceux qui sont sans force. Aide-nous, Éternel, notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi. » Vous connaissez ce mot, Chaan. En ton nom, nous nous opposons à cette multitude. Seigneur, tu es notre Dieu. Que personne ne prévale contre, qui? Contre, toi. Pas contre moi, pas contre nous, mais contre vous. Ils n'ont aucune idée de qui ils vont affronter. Ils pensent qu'ils vont affronter 580 000 personnes. Ils s'opposent à une armée d'un seul homme. Frères et sœurs, Asa a prié ce qu'il croyait dans son cœur. Lui et Judas s'en remettaient à Dieu. Ses paroles étaient l'expression de ce qu'il croyait ici et ici. Et parce qu'Asa et Judas se sont appuyés sur Dieu, il est dit que Dieu a frappé les Éthiopiens et qu'ils se sont enfuis, donnant à Asa et à Judas une grande victoire. Le roi Asa continue de montrer sa volonté de s'en remettre à Dieu et de faire le bien. Plus d'une décennie après le début de son règne, les choses roulent plutôt bien. Frères et sœurs, pour beaucoup, il est difficile de s'appuyer sur Dieu, et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Certains d'entre eux nous trouvent plus facile de compter sur eux-mêmes et sur les autres. C'est ce que nous avons appris depuis notre enfance. Nous avons dû compter sur nos parents. Nous avons dû compter sur nos enseignants. Nous avons compté sur nos amis. Nous avons vécu une vie où nous dépendions de beaucoup de gens, et tout à coup, Dieu s'est introduit dans ma vie et j'ai appris à compter sur lui. Quel changement cela peut représenter? Je sais que c'est un défi pour tout le monde. Psaume 62. Nous pouvons trouver difficile, frères, de nous appuyer uniquement sur Dieu, mais le roi David a compris qu'il était crucial de s'appuyer uniquement et continuellement sur Dieu. Et la confiance complète et totale en Dieu commence par ce qui suit. Elle commence par croire qui est Dieu et ce qu'il est le seul à pouvoir faire. Permettez-moi de le répéter. Pour s'en remettre totalement à Dieu, il faut d'abord croire qui il est, ce qu'il est le seul à pouvoir faire et ce qu'il peut fournir dans toutes les situations. Nous devons parfois nous le rappeler, mes frères. En particulier dans les moments difficiles, nous devons nous le rappeler encore et encore. Nous verrons que Dieu met l'accent sur ce point. Psaume 62, verset 1. En vérité, mon âme espère en Dieu, c'est de lui que vient mon salut. Personne d'autre ne peut y pourvoir. Lui seul. Est probablement le mot le plus important de cette partie de l'Écriture. Lui seul est mon rocher et mon salut, il est ma défense, je ne serai pas ébranlé. Mon âme ne pèse que sur Dieu, car c'est de lui que j'attends quelque chose. Lui seul, répète encore, est mon rocher et mon salut, il est ma défense, je ne serai pas ébranlé. Il l'a dit deux fois. Il se rappelle encore et encore les attributs que Dieu a et seulement les attributs que Dieu a. C'est en Dieu qu'est mon salut et ma gloire. C'est en Dieu qu'est le rocher de ma force et mon refuge. Confiez-vous à lui en tout temps. Vous, peuple, épanchez votre cœur devant lui, Dieu est pour nous un refuge. Frères et sœurs, faisons une liste rapide. Le salut vient de Dieu. Dieu seul est notre rocher. Dieu est notre défense. Nous attendons et plaçons toutes nos espérances en lui. Tout cela est résumé, si l'on peut dire, dans une petite pilule, la Reliance. Attendez, et il est dit que c'est une multivitamine que nous décrivons ici. Est-il dit que Dieu est notre gloire? Oui. Est-ce qu'il est dit qu'il est notre force? Cela aussi. Est-il notre refuge quand nous en avons besoin? Oui. C'est pourquoi David nous dit de nous fier à lui, de nous appuyer sur lui. Nous voyons ici, parfois ou tout le temps. C'est on ne peut plus clair. Pensez-y. Même l'existence humaine, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais connu Dieu, qui ont vécu sur cette planète et n'ont jamais connu le vrai Dieu, s'appuient sur lui. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui a jamais vécu, qu'il soit bon ou mauvais, dépend de sa bonne volonté. L'air, l'eau, la nourriture, les éléments essentiels de la vie, seul Dieu les fournit. C'est une connaissance fondamentale, mes frères, que même notre existence physique, dépend de Dieu. Et il peut être facile pour nous de reconnaître notre besoin de compter sur lui pour ces choses, mais qu'en est-il des autres domaines? Ce qui m'amène au point suivant. Frères et sœurs, vous n'avez pas à me convaincre que vous vous en remettez à Dieu. Et je n'ai pas à vous convaincre que je m'en remets entièrement à Dieu. Chacun d'entre nous a la responsabilité d'en convaincre Dieu. Et comment est-il dit que nous pouvons le faire? En déversant nos cœurs devant lui. En lui disant chaque jour que nous comptons sur lui. C'est aussi simple que cela. C'est ainsi que cela commence. Philippiens, chapitre 4. Philippiens 4. Et le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, comme nous l'avons fait à la fête des tabernacles. Et encore une fois, oh, un rappel. Je dis, réjouissez-vous. C'est-à-dire après la fête des tabernacles. Notre réjouissance ne se limite pas à la fête. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et je le répète, se répète-t-il. Frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire dans notre vie. Nous devons répéter certaines choses encore et encore. Combien de fois? Tous les jours. Que votre modération soit connue de tous pendant et après la fête. Cela s'applique certainement. Le Seigneur est proche. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien, mais soyez attentifs à tout. Non pas en certaines choses, mais en tout. Pensez que c'était seulement l'Ancien Testament qui le suggérait. En toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées par Christ Jésus. Frères et sœurs, nous devons tous faire de notre mieux pour convaincre Dieu que nous comptons uniquement sur lui pour tout. C'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité. Je ne peux pas vous convaincre et vous ne pouvez pas me convaincre. Mais nous devons tous convaincre Dieu. Et le premier moyen est la prière et la supplication. Nos efforts pour convaincre Dieu que nous comptons vraiment, véritablement et totalement sur lui commencent par le lui dire. Tout simplement. Dieu, je compte sur toi. C'est une excellente façon de commencer vos prières lorsque vous traversez une épreuve. Cela aura un impact. Car tout découle de là. Prions-nous pour nos mariages? Bien sûr. Mais prions-nous d'une manière qui nous amène à nous plaindre de notre conjoint ou disons-nous, je compte sur toi pour traverser cette épreuve et pour le faire de la manière dont tu veux que je le fasse. Prions-nous pour nos enfants, pour ce qui se passe dans leur vie. Parce que je compte sur toi pour m'aider à les guider, à être un exemple pour eux. Prions-nous au sujet de nos amitiés, de notre efficacité au travail, de nos finances, de notre santé, d'une manière qui démontre à Dieu que nous comptons entièrement sur lui. Et nous avons entendu dans la somme nette, travailler comme si tout dépendait de nous. Il y a une action dans la façon dont nous démontrons à Dieu que nous comptons sur lui. Mais prier comme si tout dépendait de Dieu, nous ne l'avons pas fait ensemble. Nous ne nous sommes pas réunis pour dire qu'il allait parler de ceci ou que j'allais parler de cela. C'était inspirant d'entendre cela dans le message précédent. Frères et sœurs, lorsque nous nous épanchons devant Dieu, nous lui disons que nous comptons sur lui pour obtenir des réponses et de l'aide dans tous les domaines de notre vie. Et ce faisant, nous nous rappelons à nous-mêmes. Nous étudions le psaume 62 et nous lui disons, par la prière, que nous comptons uniquement sur lui. Et voici ce qui se passe lorsque nous faisons cela. Lorsque nous nous rappelons qui est ce Dieu sur lequel nous voulons nous appuyer. Et lorsque nous lui disons par la prière et la supplication que nous comptons sur lui, voici ce qui se passe. Psaume 27 et verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie, il n'y a pas de qualificatif ici, de qui aurais-je peur? Quand les méchants, mes ennemis et mes adversaires, se sont jetés sur moi pour dévorer ma chair, ils ont chancelé et sont tombés. Quand une armée camperait contre moi, ce qu'Esa aurait su et lu, mon cœur ne craindrait pas. Quand la guerre s'élèverait contre moi, je me confierais en Dieu. Comme le roi Asa, nous nous rappelons pourquoi nous comptons sur Dieu et nous le lui disons par la prière, et même par le chant. Nous chantions les hymnes au début des services, et nous sommes arrivés à l'hymne 17, psaume 25. Mes yeux sont continuellement fixés sur le Seigneur. De nombreux hymnes que nous chantons parlent de notre confiance en Dieu. Et ils expliquent pourquoi nous devrions compter sur Dieu, à cause de tous les attributs qu'il possède. Frères et sœurs, lorsque vous chantez pour Dieu, vous chantez que vous comptez sur lui. Pensez-y. Ce faisant, nous n'aurons plus peur. Lorsque nous chantons pour Dieu au milieu des épreuves et des tribulations, nous disons à Dieu que nous comptons sur lui. Nous n'aurons plus peur et nous serons plus confiants dans cette situation, quelles que soient les circonstances et quelle que soit l'issue. C'est un point essentiel, mes frères. Pensez à trois hommes. Allons à Daniel 3. Quand je suis arrivé à cette partie et que j'ai pensé à méditer dessus, ces trois hommes me sont venus à l'esprit. Daniel 3. Je vais lire quelques mots ici. Nous l'avons probablement lu un nombre incalculable de fois, mais j'espère qu'il a un impact légèrement différent ou plus puissant. Daniel 3 et le verset 12. Nous savons que certains des méchants serviteurs du roi Nebuchadnezzar avaient vu Shadrach, Meshach et Abednego faire de bonnes choses. Ils étaient un peu jaloux et voulaient les piéger. Et les piéger en les obligeant, parce qu'ils savaient que leur engagement envers ce Dieu qu'ils servaient, violerait le décret de Nebuchadnezzar selon lequel ils devaient l'adorer, lui et lui seul, et aussi adorer l'idole. Nous connaissons le récit. Et puis il est dit ici au verset 12, voici ce qu'ils font. Des Chaldéens qui s'adressent à Nabuchodonosor pour accuser les amis de Daniel. Et, il y a certains juifs que tu as mis à la tête des affaires de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils visaient trois hommes en particulier. Ces hommes, ô roi, ne t'ont pas respecté. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. C'est alors que Nabuchodonosor, quelqu'un qui aurait bien besoin de cours de gestion de la colère, se met en colère et devient furieux. Il ordonne qu'on les amène devant lui pour leur demander s'ils servent ses dieux ou s'ils adorent sa statue d'or. Verset 16. Tous trois répondirent, non pas un seul, ni deux, mais tous les trois, et ils dirent au roi, ô Nebuchadnezzar, Nous n'avons pas le soin de te répondre sur ce point. S'il en est ainsi, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. 18. Voici la clé, mais si ce n'est pas le cas, et vous pourriez probablement entendre une épingle tomber devant ce roi puissant et tout le peuple écoute avec le pouvoir qu'il pourrait exercer, mais si ce n'est pas le cas, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Et s'il s'agissait d'un combat de regard, je connais les trois qui n'ont pas scié. Personne ne peut faire face à ce genre de disparition, à ce genre de mort, brûlé vif avec intrépidité et confiance s'il ne s'appuie pas sur Dieu. Shadrach, Mésac et Abednego se sont appuyés sur le Dieu de la lumière, notre Dieu du salut, notre Dieu de la force, notre rocher, notre défense, notre refuge, et leur cœur n'a pas eu peur. Et je pourrais facilement affirmer que ces hommes se rappelaient régulièrement à eux-mêmes et les uns aux autres, qu'ils s'en remettaient uniquement à Dieu. Et je ne doute pas qu'ils ont prié comme s'ils s'appuyaient entièrement sur Dieu. Frères et sœurs, si nous nous rappelons de nous appuyer sur Dieu et si nous le convaincons par la prière et la supplication que nous le faisons, si nous le lui disons simplement. En toutes circonstances, quelle que soit l'épreuve à laquelle on est confronté, faire ces deux choses nous rendra de moins en moins craintifs et de plus en plus confiants. Dans la mesure où la mort n'a pas d'importance, nous la préférons en toutes circonstances et quel que soit le type de mort, si vivre est un frère pour nous, si vivre signifie que nous devons nous fier à quelqu'un d'autre, nous préférons faire face à la mort. Nous préférons affronter la mort. Nous n'aurions pas à craindre l'intimidation, la résistance de qui que ce soit, de notre famille, de nos amis, de nos collègues de travail. Tout danger ou toute menace pour notre vie, de quelque manière que ce soit, qu'il s'agisse d'un ouragan ou d'une grippe ou d'un rhume, choisissez votre ennemi. Nous serions moins susceptibles d'être séduits par des hommes, des femmes, des enfants, des amis, des ennemis, des patrons ou des employés et de nous fier à eux plutôt qu'à Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas une affaire, une offre d'emploi, une promotion ou une relation qui devrait interférer avec notre confiance totale en Dieu. Rien. Verset 19. Alors Nebuchadnezzar, plein de fureur, et la forme de son visage changée, on dirait qu'il est possédé à ce moment-là, contre Shadrach, Mésac et Abednego, ordonna que l'on augmentât 7 fois la chaleur de la fournaise. Et que les plus forts de son armée les lient et les jettent dans la fournaise. Je trouve que c'est un peu exagéré pour 3 juifs. Ils s'approchent d'eux et je peux voir que les 3 les calment comme des concombres. Et, bien sûr, au verset 24, le roi Nebuchadnezzar fut saisi de stupeur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Il se leva précipitamment, jeta un coup d'œil, prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 d'entre eux dans la fournaise, au milieu du feu ?» Ils répondirent, « C'est vrai, ô roi absolument. C'est tout ce que nous avons jeté. Nous n'en avons pas jeté 4. Nous n'en avons pas mis 2 non plus, parce que nous ne voulons pas les suivre. » Il répondit, « Voici, je vois 4 hommes libres, marchant au milieu du feu. Ils sont sains et saufs, et la forme du 4e est semblable à celle du Fils de Dieu. Comment l'apôtre Paul s'exprime-t-il, si nous nous trouvons dans cette fournaise? Je puis tout par Christ, qui me fortifie. » Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Parfois, mes frères, il faut laisser les versets parler d'eux-mêmes. Pendant que vous tournez là, je me souviens que Christ a dit aux disciples lors de la grande commission, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Romains 8, verset 31. Que répondrons-nous à ces choses? Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, mes frères. Que dirons-nous? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi gratuitement toutes choses? Paul dit à l'Église de Rome, il nous dit, en d'autres termes, la Bible dans son intégralité, mes frères, explique pourquoi l'homme doit s'en remettre uniquement à Dieu. C'est de cela qu'il s'agit dans la Bible. Elle vous dit pourquoi. Elle dit aussi comment. Mais la Bible explique pourquoi l'homme doit s'appuyer sur Dieu. Revenons à Daniel 3. Revenons à Daniel. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Mésac et d'Abednego, qui a envoyé son ange, Christ, nous le savons, et qui a délivré ses serviteurs qui se confiaient en lui, qui se fiaient à lui, et qui a changé le roi, même lui l'a reconnu. Et ils ont changé la parole du roi, son opinion, sa pensée, son décret, et ils ont livré leur corps, afin de ne servir ni adorer aucun autre Dieu que leur propre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur lui. Frères et sœurs, nous devenons aussi dépendants de Dieu que la mort, l'entrée dans le royaume, est de loin préférable à l'abandon de notre dépendance à l'égard de Dieu. Et si c'est vrai, si nous croyons vraiment cela, il n'y a pas une difficulté ou un succès, une chose ou une personne, un ennemi ou un ami dans notre vie qui pourrait nous faire craindre ou affaiblir notre confiance en Dieu par Christ. Il n'y en a pas un seul. Et avec une telle connaissance. Oh, vous voulez la partager, n'est-ce pas? Vous voulez le crier sur les toits. J'aimerais la partager avec ma mère et mon père à ce stade avancé de leur vie. Vous aimeriez partager cette connaissance sur la façon dont ils doivent comprendre qu'ils doivent s'appuyer sur Dieu, et uniquement sur lui. Verset 29. Je veux partager cette connaissance étonnante, mes frères, avec tout le monde, la famille, les amis, les êtres chers. C'est pourquoi je décrète que tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues qui parleront mal du Dieu de Shadrach, de Mésac et d'Abednego seront mises en pièces, et que leurs maisons seront faites de fumier, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse délivrer de la sorte. Et le roi promut Shadrach, Mésac et Abednego dans la province de Babylone. Frères et sœurs, laissons les autres s'étonner, comme Nabuchodonosor, lorsque nous nous en remettons à Dieu en renonçant à une opportunité d'emploi, à une promotion, ou en ne l'acceptant pas, ou à une augmentation de salaire, parce que faire l'une ou l'autre de ces choses reviendrait à nous demander d'enfreindre le service de Dieu pendant les jours saints. Qu'ils soient étonnés, car vous savez, l'obéissance est liée à la confiance. Les gens obéissent à ceux sur qui ils comptent en fin de compte. Que les médecins non convertis louent le grand Dieu. J'ai entendu un récit récemment. J'ai été choqué. Certains d'entre vous l'ont su avant moi. Que les médecins non convertis louent le grand Dieu que nous servons lorsque le cancer de stade 4 disparaît. Je n'ai rien à dire à ce médecin non converti, parce que nous nous sommes fiés à Dieu pour nous guérir en demandant d'aller voir les anciens pour être un ou recevoir un tissu d'onction. La foi est liée à la confiance en Dieu. Les gens croient en ce sur qui ils comptent. Que nos familles se taisent donc, frères, et que leurs critiques à l'égard du vrai Dieu soient étouffées lorsqu'elles verront notre confiance inébranlable en Dieu. Les changements que nous avons opérés dans nos vies, et nous ne reviendrons pas en arrière. La façon dont nous nous sommes comportés dans le passé par rapport à la façon dont nous nous comportons aujourd'hui. Comme le roi Asa. Ce sont les nombreuses façons, mes frères, de convaincre non seulement Dieu, mais aussi les autres, que nous comptons entièrement sur Dieu. Deuxième Chronique 15. Revenons en arrière. Deuxième Chronique 15 et le premier verset. L'Esprit de Dieu vint sur Azaria, fils d'Oded, qui alla trouver Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa, tout Juda et Benjamin. Le Seigneur est avec vous, tant que vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Et au verset 3, une chose curieuse. Il dit, « Maintenant, je veux vous dire quelque chose. Je veux vous montrer quelque chose. » Pendant une longue période, Israël a été privé du vrai Dieu, d'un prêtre enseignant et d'une loi. Cela reflète certainement la situation dans laquelle se trouve l'Israël moderne aujourd'hui. Pendant longtemps, il n'y a pas eu de vrai Dieu, pas de vrai ministre, et il est plein d'anarchie. Mais il semble qu'il y ait aussi quelque chose qui ne va pas avec Asa. Quelque chose ne va pas. La prière d'Asa était-elle une réaction, cette prière précédente qu'il a faite? Était-ce simplement une réaction au défi insurmontable auquel il était confronté? Eh bien, à sa décharge, lorsqu'il a entendu le prophète parler de changement, vous savez ce qu'il a fait? Il a agi. Tu sais ce que signifie le nom d'Azaria? Il signifie que l'Éternel aide. Le serviteur de Dieu était là pour l'aider. Poursuivons, au verset 7, « Fortifie-toi donc, et que tes mains ne faiblissent pas, car ta marche sera récompensée. » Asa entendit ces paroles et cette prophétie, et il prit courage. Il fit disparaître les idoles abominables de tout le pays, de Juda et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises sur la montagne d'Éphraïm, et il rétablit l'ordre du Seigneur. Pensez à nous. Nous entendons des messages préparés par les serviteurs de Dieu. Vous recevez des conseils de votre ministre. Ce sont des mots. C'est ce qui est écrit ici. Ces mots. Nous avons une connaissance de la prophétie sans précédent dans l'histoire de l'Église. Nous devons donc terminer en force, avec le temps qu'il nous reste. Nous devons prendre courage. Nous devons être sûrs d'arriver au terme de la fête, avec l'énergie nécessaire pour éliminer tout péché dans nos vies. Et il est dit ici que nos efforts seront récompensés. Non seulement le roi Asa a fait le ménage dans sa vie, mais après avoir entendu le serviteur de Dieu, son exemple a incité le peuple à faire de même. Lorsque nous faisons cela, frères, et que chacun d'entre nous le voit, cela nous encourage à faire la même chose. Verset 9, il rassembla tout Juda et Benjamin, et les étrangers qui étaient avec eux, d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, car ils étaient venus à lui en grand nombre d'Israël, lorsqu'ils virent que le Seigneur son Dieu était avec lui. Verset 12. Ils conclurent l'alliance de chercher le Seigneur, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme, et de faire mourir quiconque ne chercherait pas le Seigneur, le Dieu d'Israël, qu'il soit petit ou grand, homme ou femme. Personne ne ferait exception à ce vœu qu'ils ont tous fait. N'est-ce pas? Même sa mère. Poursuivons au verset 16. Il est dit, il la destitua, il ne la lapida pas, curieusement, parce que c'était le vœu qu'ils avaient fait. Il l'a simplement déchue de son titre de reine parce qu'elle avait fait une idole dans un bosquet. Asa abattit son idole, l'estampilla et la brûla, mais il ne lui fit rien. Peut-être un indicateur précoce. Mais les hauts lieux n'ont pas été enlevés d'Israël. Oh, attendez une seconde. Cependant, il est dit que le cœur d'Asa fut parfait tout au long de sa vie. Il apporta à la maison de Dieu les choses que son père avait consacrées à la maison de Dieu et qu'il avait lui-même consacrées, de l'argent, de l'or et des ustensiles. Il prit sur son propre trésor et le mit dans la maison de Dieu. Il n'y eut plus de guerre jusqu'à la 5e et 30e année, c'est-à-dire 35 ans de règne d'Asa. Considérez Elsa comme un exemple parfait de notre formation pour devenir des rois et des prêtres. Bien sûr, nous avons vu Dieu bénir nos vies bien que nous ne soyons pas parfaits, que nous ne le soyons pas et que nous ne le serons pas avant que la perfection ne vienne. Dès le début de notre vocation, de notre conversion, nous apprenons à nous détourner du péché et à faire des changements, quelle qu'en soit l'ampleur. Tout ce que le ministère nous demande, nous le ferons. Je me souviens qu'à mes débuts dans l'Église, un jeune assistant ministériel, je crois que c'était un assistant ministériel à l'époque, qui n'est plus là, est venu me voir et m'a dit, « Monsieur Houk, puis-je vous parler ?» J'ai répondu, « Bien sûr. » J'étais en train d'apprendre ce qu'était le gouvernement de Dieu. Vous savez, le ministère de Dieu, vous êtes sur le point de parler. J'ai les yeux écarquillés. Et mes oreilles sont dirigées vers lui. Et il me dit, vos cheveux sont coupés un peu trop courts. Il faut les laisser pousser plus longtemps. Puis il a décrit ce à quoi ressemble un ambassadeur du Christ. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis assuré de dire à la personne qui me couperait les cheveux la fois suivante exactement ce que l'assistant ministériel m'avait dit, et je n'ai plus eu de problème depuis. Grâce à lui, j'ai trouvé un nouveau coiffeur. Quelle que soit la taille, cela montre que vous comptez sur Dieu. Avec le temps, certains d'entre nous en viennent à penser qu'ils ont atteint un point où presque tout semble être en place. Nous l'avons. J'ai traversé toute cette histoire de christianisme. J'ai reçu des coups et des bosses, mais je pense que je l'ai bien assimilé. Il en a été de même pour Asa pendant les 15 premières années de son règne. On pourrait dire qu'il a été un chrétien modèle pendant les 15 premières années, puis pendant 20 ans, 35 ans. Rappelez-vous, au début de mon message, quelle était l'une des clés de son succès? Il a été un exemple brillant de quelqu'un qui s'est appuyé entièrement sur Dieu, mes frères. La question qui se pose maintenant est de savoir si cela va continuer à être le cas. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui a pu changer pour Asa? 35 ans. Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce qui pourrait, après le nombre d'années passées dans l'Église, effacer tout ce que vous avez fait jusqu'à présent? Même si nos cœurs, comme il est dit de la tête d'Asa, sont à la bonne place. Rappelez-vous que j'ai dit au début que le nombre d'années, de mois, de semaines et de jours était encore plus important pour vous et moi que les 35 ans d'Asa. C'est le nombre d'années, de mois, de semaines et de jours pendant lesquels vous vous êtes appuyé sur Dieu et vous vous appuierez sur Dieu pendant le nombre de jours, de semaines, de mois et, nous ne le savons pas, d'années qui restent. Aujourd'hui, demain et les jours suivants, mes frères, comptent autant que les années, les semaines et les jours, quel que soit leur nombre, qui nous ont précédés. C'est aujourd'hui et demain qui comptent quand il s'agit de s'appuyer sur Dieu. Poursuivons avec le verset de ici. Pardon, chapitre 16. Chapitre 16 et verset 1. La voici. La sixième et trentième année du règne d'Asa, et non la 35e ou la 35e. La 36e année. Bancha, roi d'Israël, monta contre Juda et construisit Rama dans l'intention de ne laisser personne sortir ou entrer chez Asa, roi de Juda. Vous savez ce que je penserai? Il n'y a pas de problème. Mon père et moi sommes passés par là. Quel est l'autre ennemi qui tente de s'opposer à Dieu? Nous savons ce qui est arrivé à 1 million d'Éthiopiens et à leurs chars. Et qu'en est-il des 800 000 hommes de l'armée de Jéroboam, si vous vous en souvenez? Et le fait que Jéroboam ne s'est jamais remis de la défaite subie sous le règne d'Asa père, parce qu'il s'est appuyé sur Dieu, vous vous souvenez? C'est ce que nous lisons. Frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, cela peut commencer demain, après-demain ou le surlendemain. Nous pourrions nous engager sur la voie de l'échec, ce qui nous conduit à l'erreur numéro 1. Verset 2. Asa fit sortir de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel, c'est intéressant. Pour faire quoi? Pour en mettre plus dans la maison de l'Éternel? Pour les mettre dans sa maison? Non. Il prit des trésors de son propre trésor, de l'or et de l'argent, pour faire quoi? Pour les mettre dans la maison du Seigneur? Non. Pour en ajouter à son propre trésor? Il y a quelque chose de différent chez Asa par rapport à ce que nous avons lu jusqu'à présent pendant 35 ans. Que se passe-t-il? Il envoya Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas, en disant, « Il y a entre nous une alliance comme il y en avait une entre nos pères. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. » Voilà ce qu'il en a fait. Il n'a pas seulement pris son propre trésor, il a pris dans la maison de l'Éternel ce qui appartenait à Dieu et l'a donné à un roi syrien qui, je peux vous l'assurer, ne se souciait pas du tout de Dieu et qui comptait encore moins sur lui d'une manière ou d'une autre. Verset 4. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Bien sûr qu'il l'aurait fait. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et ils battirent Rijon, Dan, Abel-Maïm et toutes les villes de Nephtali. Lorsque Baal apprit, il cessa de construire Rama. Le roi Asa prit tout Juda, emporta les pierres de Rama et le bois de construction de Baal, et s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Frères et sœurs, après avoir compté entièrement sur Dieu pendant 35 ans, Asa, la 36e année, commença à compter sur lui-même et sur les autres. Et comme il a abandonné sa confiance en Dieu pour se fier à ses propres ressources et même à l'aide de gens qui sont des ennemis de Dieu, vraiment des ennemis de Dieu, voici l'élément le plus dangereux de ne pas se fier à Dieu et de se fier à nous-mêmes ou à d'autres. Vous savez quel est l'élément le plus dangereux? Renoncer à s'appuyer sur Dieu pour s'appuyer sur nous-mêmes ou sur les autres? La réussite. Les ennemis d'Asa ont été vaincus. Asa a pris le butin et a construit d'autres sites. Un succès selon les critères de chacun, n'est-ce pas? Proverbe 3. Le succès peut nous empêcher de voir que nous avons eu tort de compter sur quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu. Un verset que nous lisons tout le temps, Proverbe 3, verset 5. Confiance en l'Éternel. C'est un seul mot. C'est la confiance. Ce n'est pas la même chose que le mot que nous allons lire. Confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Ce mot s'appuyer, est le même que celui que nous avons étudié. Le mot confiance est batak, et il signifie faire confiance. Être confiant ou être sûr de soi dans le Seigneur. Ce n'est pas chahan, cela ne signifie pas se soutenir ou céder en s'appuyant sur ou en se reposant sur ou simplement en se relaxant, au milieu de difficultés ou de situations tendues. Sois tranquille et sache que je suis Dieu, voilà ce que signifie ce mot. La confiance vous permet d'atteindre ce point, mais s'appuyer est une action extérieure, un travail, une démonstration que tout ira bien quel que soit le résultat. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous fier à notre compréhension, ni dans les épreuves, ni jamais. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas réfléchir. Nous sommes des individus pensants. Nous sommes des personnes créatives. Nous avons des idées. Nous essayons de résoudre les problèmes, mais nous comptons sur Dieu pour nous aider à réfléchir aux problèmes, à notre façon de penser, à ce que nous déterminons, à ce que nous trouvons en termes de solutions. Nous comptons sur Dieu pour nous apporter cette connaissance. Nous pouvons penser à 5 idées, et il se peut que ce soit la 6e que Dieu nous révèle comme étant celle qui nous aide. Nous pouvons penser à 10 idées et il se peut que l'une de ces 10 idées soit la solution révélée par Dieu. Il peut utiliser n'importe lequel d'entre nous pour aider n'importe lequel d'entre nous à comprendre ce qu'il doit faire. Deuxième chapitre des Corinthiens. Il y a donc une différence entre la confiance et le fait de s'en remettre à Dieu. Le premier verset de la deuxième épître aux Corinthiens, vous le verrez exactement dans les Écritures. Je suis tellement étonné quand on lit le Nouveau Testament, qu'on creuse dans le grec et qu'on retourne à l'hébreu, qu'on voit ces différences entre la confiance et l'assurance, et qu'on remarque dans le grec qu'ils font la même chose. C'est l'un des cas où les traducteurs ne nous ont pas fait de cadeau. Deuxième Corinthiens, chapitre 1, verset 8, car nous ne voulons pas, frères, que vous ignoriez la détresse où nous nous sommes trouvés en Asie, et où nous avons été pressés au-delà de nos forces. Je veux dire que nous étions au-delà de ce que nous pouvions supporter, au-delà de nos forces, à tel point que nous étions désespérés. Nous avons tous ressenti ce même sentiment de vie, mais nous avions en nous la sentence de mort. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis que Paul soit condamné à mort à ce point? Eh bien, pensons à Shadrach, Meshach et Abednego, nous ne devons pas nous fier à nous-mêmes, c'est ce que les épreuves et les obstacles que nous rencontrons, si Dieu le permet, sont censés nous enseigner. Et ce mot confiance est païso. Mais en Dieu qui ressuscite les morts, et nous reviendrons sur cette définition dans une minute. Qui délivre d'une si grande mort, qui nous délivre, en qui nous avons confiance. C'est elpiso. Mot différent, même traduction, il nous délivrera encore. Frères et sœurs, països signifie convaincre, s'appuyer sur. Par certitude intérieure, avoir confiance, se faire des amis. Il y a un autre mot que les traducteurs utilisent pour ce mot, mais je ne vais pas encore vous le dire, ne pas s'appuyer sur nous-mêmes. Nous ne devrions pas nous appuyer sur nous-mêmes, ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Nous n'allons pas nous fier à nous-mêmes, dit Paul, nous n'allons pas céder à nous-mêmes, nous n'allons pas faire preuve de volonté propre, même si c'est sous peine de mort. Nous n'allons pas courir. Nous n'allons pas faire de compromis. Nous n'allons pas renoncer, nous n'allons pas abandonner. C'est ce que disait Paul. Je compte vraiment sur Dieu pour me ressusciter. C'est le contexte ici. Si cela signifie la mort, que je décide de compter sur les autres ou sur ma propre capacité à échapper à certaines épreuves et tribulations ou quoi que ce soit d'autre, je prendrai la mort parce que j'ai confiance, ce qui est l'autre mot, dans le Dieu de la résurrection. Le plus grand degré de confiance, encore une fois, comme Shadrach, Meshach et Abednego, et de ne pas craindre de mourir en Christ parce que Dieu promet de nous ressusciter d'entre les morts comme il l'a fait pour Christ et je m'excuse si j'ai trop simplifié le christianisme. Je m'excuse si j'ai trop simplifié le christianisme, si je l'ai rendu trop simple, mais je m'en contenterai parce que c'est tout ce que mon esprit peut supporter. La deuxième confiance est différente de celle que l'on trouve dans Proverbe 3. Philippiens, chapitre 3 et verset 4. Même si j'avais confiance en la chair ou en moi-même, si quelqu'un pense avoir une raison de se confier, même mot païso, moi plus. Pourquoi Paul dirait-il cela? Parce que Dieu est son salut et qu'il est le nôtre. Dieu seul était son rocher. Dieu était sa défense. Dieu était sa gloire. Dieu était sa force. Dieu était son refuge, et il en est de même pour nous, frères, sans aucune différence. Après 35 ans, Asa a cessé de compter sur Dieu pour ses attributs. Il a commencé à compter sur lui-même et sur ses richesses, et Dieu a dû faire quelque chose à ce sujet parce que Dieu ne nous abandonnera pas si nous en arrivons là. Revenons à l'épître aux deux chroniques, au verset 7. En ce temps-là, Ananie, le voyant, vint trouver Asa, roi de Juda, un autre serviteur de Dieu. Parce que tu t'es appuyé, Shaan, parce que tu t'es appuyé sur, en t'appuyant et en te reposant sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur le Seigneur, ton Dieu, c'est pourquoi l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Verset 8. Les Éthiopiens et les Lubins n'étaient-ils pas une armée nombreuse, avec beaucoup de chars et de cavaliers? Que faisait le serviteur de Dieu que nous devrions faire nous-mêmes? Il le rappelait. Si nous nous rappelons que nous devons nous en remettre totalement à Dieu, nous n'aurons pas besoin que quelqu'un vienne nous rappeler quelque chose que nous savons déjà et dont nous nous souvenons. Et de nous rappeler à nous-mêmes. Pourtant, parce que vous vous êtes appuyé sur Shaan, que vous vous êtes soutenu, que vous vous êtes aidé en vous appuyant sur le Seigneur et en vous reposant sur lui, il les a livrés entre vos mains. Tu vois ce qui se passe quand tu t'appuies sur Dieu? Car les yeux de l'Éternel vont et viennent sur toute la terre pour se montrer fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait à son égard. Il lie la perfection du cœur à la confiance en lui. En entendant, vous avez agi follement. C'est pourquoi, désormais, vous aurez des guerres. Vous pensez avoir déjà eu des épreuves, préparez-vous. Maintenant, vous allez voir des épreuves. Dieu nous enseigne, frères, à travers les épreuves. Verset 10. Asa se mit en colère contre le voyant et le mit en prison, car il était furieux contre lui à cause de cette chose. Parce qu'il lui a dit ce qu'il s'était déjà dit à lui-même. Il ne lui disait rien d'autre que ce qu'il ne savait pas. Comme Asa dans sa 36e année, nous pourrions cesser demain de compter sur Dieu dans n'importe laquelle de nos vies, mais nous ne le ferons pas. Dieu trouvera le moyen de nous le rappeler. Si nous l'oublions, ne nous fâchons pas quand il le fait et comment il le fait. Hébreux 13. Rappelez-vous que j'ai dit qu'il y avait un autre mot dans la traduction anglaise qui correspond à paiso, compter sur en grec. Hébreux 13. Le travail de Ananie était simple. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de rappeler à Asa qu'il avait oublié et qu'il devait se rappeler ce qui se passe quand on s'appuie sur Dieu et ce qui se passe quand on ne s'appuie pas sur lui. Et c'est ce que nous faisons, frères, en tant que ministres. Nous vous rappelons simplement de vous en remettre entièrement à Dieu. Hébreux 13, verset 17. Obéir. Vous savez ce qu'est ce mot? Ce n'est pas le mot que l'on trouve souvent dans tout le Nouveau Testament, qui signifie obéir, faire ce qui est ordonné. Ce n'est pas le mot ici. Obéissez à ceux qui vous gouvernent et soumettez-vous, car ils veillent sur vos âmes et doivent en rendre compte, afin de le faire avec joie et non avec tristesse. Et non avec tristesse, car cela ne vous convient pas. Le mot « obéir » n'est pas celui que nous utilisons habituellement. Le traducteur aurait dû dire « s'appuyer sur ». Comptez sur vos ministres, comptez sur le gouvernement de Dieu. C'est par iso. Si nous avons cessé de compter sur Dieu, nous espérons et prions pour que Dieu utilise ses ministres pour nous montrer ou nous rappeler de compter sur lui. Et c'est vraiment mon but aujourd'hui. Si je pouvais le distiller, ce que nous enseignons, instruisons, conseillons, corrigeons, exhortons, vous aidera comme prévu à vous appuyer davantage sur Dieu et moins sur vous-même et sur les autres. Même sur nous. Je ne veux pas que vous comptiez sur moi, je veux que vous comptiez sur Dieu parce que si vous comptez sur moi, vous vous exposez à l'échec, c'est certain. Mais si vous mettez en pratique ce que nous disons, ou ce que nous avons appris, ou ce que nous avons montré en exemple, vous êtes sur la voie de la réussite, d'une réussite continue, pour les jours, les semaines, voire les mois qui restent. Revenons à l'Épître aux Chroniques 16. Deuxième Chronique 16. Car voici la dernière erreur qu'il a commise. Troisièmement, première erreur, il a cessé de compter sur Dieu et a commencé à compter sur lui-même, sur ses propres ressources et sur les autres. Deuxième erreur, il n'a pas permis aux serviteurs de Dieu de faire leur travail. Il les a rejetés, s'est mis en colère contre eux. Il leur a simplement rappelé, ou lui a rappelé, de s'appuyer sur Dieu. C'était l'erreur numéro 2. Voici l'erreur numéro 3. Verset 12. Asa, la 39e année, c'est-à-dire 4 ans plus tard, après cette période de merveilleuse bénédiction, de victoire, de son règne, eut une maladie au pied, jusqu'à ce que sa maladie fût très grande. Il a attendu que la situation s'aggrave. Et il a continué à attendre. Et il a continué à attendre. Pourtant, dans sa maladie, il n'a pas cherché le Seigneur. Il n'a pas compté sur lui. Et il a cherché quoi? Des médecins et d'autres personnes. Permettez-moi d'apporter une précision. Nous avons des médecins. Je suis allé voir des médecins. Ils ont leur place. Dieu les utilisera de manière puissante avec la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Ma famille a eu recours à des médecins. Je sais que beaucoup d'entre vous y ont eu recours. Il n'y a rien de mal à aller chez le médecin. Il y a quelque chose d'autre qui se passe ici et que je veux souligner. Asa se coucha avec ses pères et mourut la 41e année de son règne. Asa, mes frères, son autre erreur a été de s'entêter. Tout simplement têtu. Une fois qu'une personne cesse de s'appuyer sur Dieu et rejette les serviteurs de Dieu, les rappels que nous faisons, l'entêtement s'installe. Et il ne voulait plus écouter Azaria, ni Anani. Et vous savez quoi? Je n'ai lu nulle part. Il n'y a aucune indication que Dieu lui ait envoyé des rappels à ce moment-là. Il a abandonné Dieu. Une fois que cela se produit, la mort spirituelle, mes frères, approche rapidement. Jérémie 7. Voici quelques dernières écritures. Jérémie 7, verset 24. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, mais ils ont suivi les conseils de l'imagination de leur mauvais cœur, ils ont commencé à se fier à eux-mêmes et nous savons ce que c'est. Nous savons comment est le cœur. Et ici, il est dit, et ils reculèrent, au lieu d'avancer. Leur chemin ne les menait pas au succès, au royaume, à devenir des êtres de Dieu. Bien au contraire. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs et prophètes, pour vous rappeler de ne compter que sur moi. Chaque jour, je me lève de bonne heure et je les envoie, parce que je me soucie de vous. Je veux que vous comptiez sur moi. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, pourquoi? Mais ils ont endurci leur cou. Ils ont fait pire que leur père. Un symptôme évident de l'entêtement est la surdité spirituelle. Un refus d'écouter. Et quand on en arrive là, c'est dangereux. Et comme il est dit, cela nous empêche d'avancer. Si quelqu'un, comme le dit l'apôtre Pierre, est vaincu par le monde, par les attraits de ce monde, par la société elle-même, la fin est pire pour nous que le début et, à juste titre, regardez ce qui nous a été donné. Le Dieu de la lumière, le Dieu de notre défense, le Dieu du salut. Je pourrais continuer encore et encore. Nous avons reçu un cadeau si précieux. La confiance en Dieu et son engagement a montré qu'il le fera lorsque nous nous en remettrons à lui. Frères et sœurs, s'appuyer sur Dieu ou s'appuyer sur soi-même. C'est notre choix. Hébreux, chapitre 3 et verset 14. Car nous sommes participants du Christ si nous gardons le commencement de notre confiance, on pourrait dire la confiance, fermant jusqu'à la fin. Pas la première année, pas la deuxième année, pas la dixième, la vingtième, la vingt-cinquième ou la trente-cinquième, comme dans le cas d'Ezra. C'est jusqu'à la fin, mes frères. Alors qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne vous entêtez pas comme dans la provocation, comme les enfants d'Israël, comme Asa j'ajouterai. 1 Israël à la nuque raide est tombé dans le désert et n'a jamais atteint la terre promise. Asa est tombé lui aussi, et sa chute n'a duré que 6 ans. Il a couru 35 ans avec une série d'erreurs, ne comptant plus sur Dieu et commençant à compter sur lui-même et sur les autres, refusant d'entendre les rappels qui lui étaient faits par les serviteurs de Dieu. Pas un qui ait donné un bon résultat, pas deux qui aient donné un mauvais résultat. Et puis il s'est entêté. Il s'est endurci. Il a endurci son cœur. 35 ans, il a couru. Deuxième Chronique 16, une dernière fois. Une dernière fois. Voilà qui résume bien la situation. Je ne l'avais pas remarqué avant ce matin. Souvent, nous réfléchissons à la manière dont nous résumons les choses. Comment mettre un terme à un message? Nous avons examiné 2 chapitres distincts dans la vie du roi Asa. Le premier chapitre est plus long et merveilleux, car il s'appuie totalement sur Dieu. Le deuxième chapitre de la vie, beaucoup plus court et désastreux, est dû à une confiance totale en lui-même et en l'homme, au rejet des rappels que Dieu lui a envoyés pour l'inciter à se fier de nouveau à lui, et à l'entêtement. Verset 11. Je pense qu'il résume assez bien la situation. Et voici les actes d'Asa, nous les avons examinés. Nous avons examiné ce qu'il a fait pendant 35, 36, 37, 38, 39, 40 ans. Les 35 premières années, c'est écrit, et les dernières. 6 ans. C'est intéressant de voir comment il a présenté les choses. Voici les actes d'Asa, les premiers et les derniers. C'est presque un résumé. Les 35 premières années et les 6 dernières années. Voici, elles sont écrites pour nous dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Pour nous, mes frères. Aujourd'hui, demain, et pour autant d'années, de mois et de jours, vraiment des jours, des semaines, peut-être des mois à venir, nous devons compter entièrement, complètement, totalement, entièrement sur Dieu. Je ne trouve pas assez d'adverbes à mettre là-dedans. Nous rappeler et convaincre Dieu par la prière que nous comptons sur lui. Nous devons éviter les faux pas d'Asa, qui s'est appuyé sur lui-même. Il s'est appuyé sur sa propre compréhension et sur ses ressources. Frères et sœurs, nous devons nous appuyer sur le conseil de Dieu à travers le ministère lorsque Dieu nous rappelle de dépendre de lui. Nous ne pouvons pas devenir spirituellement sourds. Et certainement, si nous le faisons, nous éviterons de tomber dans l'entêtement, qui a été le dernier et fatal faux pas d'Asa. Et, frères, ces trois choses, si vous y réfléchissez, sont les trois faux pas de ceux qui ont finalement quitté la voie de Dieu. Mais qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Comptons sur Dieu.